Kiosque Magazine.
Eh bien, bonjour à vous tous, auditrices et auditeurs, en ce mardi 17 mars. On l'aurait souhaité un petit peu moins mouillé, un peu plus ensoleillé, mais enfin, c'est comme ça. Alors, Michel Odette est à Faune. Il est présent cependant. Alors, je ne sais pas s'il peut nous dire un petit bonjour, mais bon, il est à Faune. Donc, cette semaine, ce sera Marie Lalande. Bonjour Marie.
Bonjour André.
Et puis, Yvan Deslauriers.
Bonjour André.
Et moi, André Etienne, qui auront le plaisir de partager avec vous des articles dont nous pensons qu'ils vous intéresseront, bien sûr, et que nous avons eu le plaisir à sélectionner. Alors Marie, de quoi allez-vous nous parler?
Alors moi, je vais vous parler de recherches sur l'insomnie.
Oh, wow.
Et de quelques faits scientifiques sur les arbres.
Super. Et vous, Yvan?
Moi, c'est deux sujets très différents les uns des autres. Ben, je pensais animer avec vous deux, les deux dames. Alors, mon premier sujet, c'est sur les femmes dans la science.
On aime ça, hein? Faites on attention. Hein?
Et le deuxième sujet, je pense toujours à Michel dans mes sujets de tourisme, c'est bourlinguer en famille. C'est des voyages, des grands, grands voyages, un an, mais en famille.
Superbe.
Et toi, André?
Alors, ben, moi, en ce qui me concerne, je vais ouvrir le bal, puisque c'est moi qui vais commencer, avec un article qui est drôlement intitulé parce qu'il est en forme de point d'interrogation. Le dernier grognement de l'ours blanc. Et en seconde partie, un autre article, alors complètement différent, conduire avec Pitou comme passager. Alors, différentes informations et différentes recommandations qui nous seront données. Alors donc, cet article dont je vous parlais, le dernier grognement de l'ours blanc, point d'interrogation, c'est un article qui est tiré de Québec Science du mois de janvier et février et qui est écrit par Marion Spé. Donc, ce qu'elle explique, elle dit que l'archipel arctique canadien abrite le quart des quelques 25 000 ours blancs de la planète. J'étais très surprise parce que je trouve que c'est pas beaucoup. Et selon les chercheurs des universités de l'Alberta et McGill, ce dernier sanctuaire pourrait bien ne plus être si accueillant d'ici 2100, puisque la glace qui est indispensable à la survie des ours se fragilise et se raréfie. On en parle souvent beaucoup. Alors, les chercheurs ont estimé l'évolution mois par mois de la proportion de surface gelée, de l'épaisseur de la couche de glace et de celle de la couche de neige dans l'archipel arctique canadien. Ils ont considéré que le réchauffement global serait de 3,5 degrés Celsius d'ici 2020, ce qui correspond 2100, ce qui correspond d'ailleurs à ce qui arrivera si on ne prend pas d'autres dispositions d'ici là. Ils ont utilisé un modèle régional qui est capable de prendre en compte les mouvements de la glace et de montrer les changements avec une haute résolution. Ce sont des travaux qui ont été effectués par des chercheurs de l'Université McGill. Alors, en ce qui concerne les changements relatifs à la glace et à la neige, ils revêtent une très grande importance pour la survie d'abord et pour la reproduction de l'ours blanc. Et pour une raison particulière, c'est qu'ils affectent son mets préféré qui est le phoque anné. Voilà, c'est ça. Il arrive d'ailleurs que les ours chassent de petits bélugas ou de narvals, mais vraiment les phoques, ce sont leur nourriture préférée. Et d'ailleurs, ce qu'ils préfèrent, c'est quand même surprenant, c'est l'or gras, parce qu'il est très riche en calories, ça les fait complètement saliver. Et ce qui est un peu étrange quand même, c'est qu'ils peuvent manger le gras et même laisser la viande. Mmh. Un peu de gaspillage, il va falloir les élever, ces petits ours-là.
Oui. Est-ce qu'ils ont des tactiques, des stratégies pour attraper des phoques?
Oui, ils ont une stratégie tout à fait particulière parce que, on le sait, les phoques plongent, mais de temps en temps, il leur faut quand même respirer aussi. Hein. Alors, ils mettent le musée dehors par les trous qu'ils maintiennent ouverts, mais les ours futés s'arrangent pour être là à ce moment-là précisément et attraper leur proie.
Ça fait que c'est un peu leur dernier respire.
Mais c'est ça, exactement. C'est leur dernier respire, absolument. Dans le climat actuel, la plupart des régions de l'archipel ne connaissent pas de période sans glace. Pas de période sans glace. Hein. Mais d'ici 2100, si on considère donc qu'il va y avoir 3,5 degrés Celsius de plus, selon les prévisions, les périodes libres, d'eau libre dureront de 2 à 5 mois en fonction des zones. Donc ça veut dire que sans la glace, c'est presque impossible pour l'ours d'attraper les phoques. Il faut vraiment qu'ils utilisent la tactique qu'on vient de décrire pour les attraper et les manger, évidemment. Et selon les chercheurs, ces conditions pourraient affamer jusqu'à 20% des ours. C'est quand même incroyable, hein?
Alors, les phoques, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir facilement à ce moment-là?
On aurait pu espérer effectivement que ça allait au moins bénéficier aux phoques, mais il semble que ça ne va pas être le cas parce que, bon, il y aura moins de glace de mer, donc la neige tombera dans l'eau et ne restera pas. Or, la neige, c'est un élément crucial pour les phoques parce qu'ils creusent des abris pour leurs petits. Puis, ce n'est pas tout, hein? C'est que la glace va s'amincir, elle va devenir 2 à 5 fois moins épaisse en fonction des zones de l'archipel, et donc le résultat, c'est qu'elle sera plus cassante, elle se disloquera plus trop, et c'est un drame pour les ours, parce que la reproduction, elle a lieu au printemps. Ensuite, les femelles se constituent des réserves de graisse qu'ils ont prises aux phoques, et ils s'abritent dans une tanière pendant la gestation. Mais si la banquise débâcle prématurément, elles souffriront doublement parce que, d'abord, elles n'auront pas assez de temps pour constituer leurs réserves et elles ne seront pas capables d'attendre que la glace se reforme. Alors, le résultat, évidemment, c'est qu'il va y avoir de moins en moins d'oursons qui vont naître. Ils seront plus petits et la mortalité sera plus importante.
Est-ce que les ours, donc, est-ce qu'ils vont s'adapter ou est-ce qu'ils vont être amenés à disparaître?
Ça, c'est une question qui est intéressante parce que l'adaptation, il y a deux points à considérer. Il y a l'adaptation d'un individu, mais l'adaptation d'une espèce est très différente de celle d'un individu. Parce qu'un individu peut s'adapter rapidement. Il peut apprendre 2 ou 3 choses. On le voit en ce qui nous concerne, nous. Mais ça ne veut pas dire que toute l'espèce va s'adapter. Parce que pour s'adapter, il faut pouvoir transmettre de nouveaux traits génétiques. Et c'est un processus qui demande beaucoup de temps.
Est-ce que ça peut amener même les ours blancs à considérer d'autres types d'ours?
En termes de reproduction?
Oui,
absolument. Puisque les ours blancs peuvent se reproduire avec des grizzlies. C'est quand même assez rigolo, hein, ça. Donc, un ours blanc peut se reproduire avec des grizzlies et même les hybrides nés de cette union peuvent eux aussi se reproduire. Les chercheurs disent même qu'il est possible que ces métissages soient plus fréquents à l'avenir, mais ce n'est pas un moyen pour sauver l'espèce, puisqu'à partir du moment où ils sont comme hybridés, évidemment, on ne pourra plus parler de l'ours blanc. Ça devient d'autre chose, exactement. Alors, il faudrait vraiment prendre des dispositions parce que les changements sont trop brutaux pour que les ours blancs puissent compter sur une adaptation naturelle. Alors, c'est un article extrait de Québec Science écrit par Marion Spray.
L'insomnie, c'est possible. Oh. Je vous vois bailler, je vous entends aussi. Un article écrit par...
On peut dire que c'est Michel qui a baillé. Parce qu'il ne peut pas parler, mais il peut bailler.
Il baille. Un article écrit par Marie-Hélène Allary, qui est collaboratrice au Devoir, dans un cahier spécial sur la recherche, le 21 février 2015. Certains n'ont aucun mal à s'endormir en avion ou dans le métro. D'autres réussissent même à dormir dans un déluge de décibels. Mais pour les insomniaques, c'est une toute autre histoire, alors que pour eux, le moindre bruit réussit à les garder éveillés pendant des heures.
C'est toute une injustice, ça, hein?
Alors, tout
Pourquoi
à fait.
Ça?
Oui, dans la plupart des troubles du sommeil, on montre du doigt le stress comme le principal responsable des cas d'insomnie. Mais le sommeil nous cache encore certains mystères qu'a voulu élucider le docteur Tien Tan Dang Vu, qui mène des travaux de recherche qui visent à mieux cerner les mécanismes du sommeil. Nos premiers travaux consistaient à utiliser l'imagerie par résonance magnétique, ou l'IRM, afin d'observer l'activité cérébrale des dormeurs, explique le médecin. Couplés à des électroencéphalogrammes, ces tests ont permis, lors de cette première phase des travaux, qu'une activité assez complexe se produit dans certaines régions du cerveau lors du sommeil et de déterminer le rôle important de celle-ci dans les processus de l'apprentissage et de la mémoire. Ces travaux se focalisaient sur ce qu'on appelle les oscillations cérébrales ou les fuseaux du sommeil. Ça, c'est vraiment les deux termes les plus importants, deux termes qui désignent une activité alternée. Contrairement à son mode de fonctionnement en continu durant la journée, le cerveau, lorsqu'on dort, est actif, mais de manière phasique ou cyclique. Ces phases d'activité et de silence alternent et finissent par créer un rythme. Donc, on venait d'établir la cartographie du sommeil. Dans un deuxième temps, le docteur Dang Wu et son équipe ont voulu comprendre quelle était la fonction de ces oscillations du sommeil. On a calculé leur nombre, on a mesuré leur amplitude et on a évalué leur durée. Puis on a voulu ensuite examiner comment le cerveau réagissait au bruit au cours du sommeil. Et on a découvert que le cerveau est capable de percevoir le bruit lorsqu'on est endormi. Les aires impliquées dans l'audition sont actives lorsqu'on simule les bruits, mais pas n'importe quand. Et c'est ça la partie importante. Mm-hmm. On sait maintenant que lorsqu'est produite cette oscillation du sommeil, le son ambiant ne passe pas. Le cerveau le bloque. C'est ce qui a permis de mieux comprendre le rôle de ces oscillations et de déterminer que plus le cerveau en produit, moins on est sensible au bruit et plus on profite d'un sommeil plus stable. Ces oscillations, différentes d'une personne à l'autre, c'est ça qui est intéressant, expliquent potentiellement nos différences dans le sommeil. Le spécialiste et son équipe cherche maintenant à savoir si les personnes qui produisent moins de fuseaux de sommeil sont plus à risque de développer de l'insomnie. C'est bien connu, en période d'examen, les étudiants sont stressés. Alors, c'est pourquoi une étude clinique du docteur Dang Wu s'est penchée sur un groupe d'étudiants universitaires. On les a regardés dormir au début d'un trimestre, au moment où le stress n'est pas élevé, et à la fin de celui-ci, pendant la période d'examen, là où le stress est à son comble. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces étudiants vont développer des symptômes d'insomnie en période d'examen. C'est assez logique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que ceux qui avaient plus tendance à développer cette insomnie sont ceux qui, de manière générale, avaient moins de fuseaux. Grâce à l'IRM et aux études menées sur les animaux, on sait que ces fuseaux sont générés par des interactions des neurones du thalamus et du cortex. Ce sont des boucles d'interaction qui génèrent ces fuseaux. On sait aussi que l'architecture du sommeil est en partie déterminée par les gènes qui contribuent à la plus grande intensité de ces oscillations du sommeil.
Est-ce que ces recherches-là vont nous amener à trouver des traitements pour l'insomnie?
Alors, un autre projet de recherche vise à découvrir si la présence plus ou moins importante de ces oscillations du sommeil est cruciale dans le traitement de l'insomnie. On a des résultats préliminaires qui vont dans ce sens et qui semblent démontrer que ceux qui ont tendance à mieux répondre au traitement de l'insomnie sont ceux qui possèdent plus de ces fuseaux. À l'heure actuelle, le traitement de première ligne est celui qui fonctionne le mieux, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, contrairement aux somnifères qui, à la longue, perdent de leur efficacité et rendent dépendants. Mais malheureusement, cette thérapie n'est efficace que pour les deux tiers des patients. C'est un peu triste. Les plus récentes recherches de l'équipe de chercheurs s'appliquent à tenter de prédire quel patient réagira bien à la thérapie. Ultimement, on pourra ainsi concevoir de nouveaux traitements qui viendront s'associer aux traitements existants. Dans les laboratoires, on entamera prochainement une troisième phase de recherche et ce sera probablement celle qui va durer le plus longtemps. Cette étape consistera à tenter soit de modifier les oscillations à l'aide de différents traitements, soit de planifier des traitements qui seront plus efficaces chez les patients qui produisent moins de ces oscillations, mais sans nécessairement les modifier. Cette phase n'est pas encore en place, mais elle consistera à confirmer les résultats et à les étendre, et c'est ce vers quoi on tend. Alors, je rappelle que c'était un article écrit par Marie-Hélène Allary, collaboratrice au Devoir, dans un cahier spécial sur la recherche le 21 février 2015.
Pour vous montrer que je suis bien présent. C'était France d'amour. I'm only sleeping. Ça me va bien, ça, ce matin.
Oui,
I'm
oui,
only
oui,
sleeping.
C'est, ça, oui,
c'est
oui.
Une mélodie des Beatles, en passant.
Oui. D'accord.
Bon, j'ai fait mon effort, je pense.
Oui,
c'est très beau, Michel. C'est excellent.
Pas très harmonieux.
Moi, par contre, je ne vous parlerai pas de la belle au bois dormant, mais je vais continuer sur le côté féminin. C'est la science au féminin. C'est un article écrit par Ève Christian sur le blog de Radio-Canada le jeudi 12 mars. Alors, le dimanche 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Les femmes ont apporté beaucoup à la science.
Merci, Michel. Merci, Yvon.
Ça me fait plaisir. Mm-hmm. Mais elles se sont souvent montrées discrètes, parfois malgré elles, d'ailleurs. En voici quelques-unes dont l'histoire lui a semblé, à Ève Christian, digne de mention. Je commence avec Hypatie d'Alexandrie. Vous l'avez tous entendu parler, j'en suis sûr.
Mmh. Quel prénom?
Reculons loin dans le temps. Hypatie naît en Égypte vers les années 360 après Jésus-Christ. D'après les récits d'historiens, elle aurait été la première femme à contribuer au développement des mathématiques. Son père, Théon, savant mathématicien, se rendait souvent à la magnifique bibliothèque d'Alexandrie quelques années avant qu'elle soit détruite. Et sa fille l'accompagnait, s'intéressant aux livres qui parlaient d'équations et d'astronomie. Remettons-nous à l'époque où la Terre était le centre de l'univers et le Soleil tournait autour d'elle. Cependant, les recherches d'Hypatie sur les courbes coniques lui montrent une toute autre réalité. La Terre n'est pas le centre de l'univers. Elle tourne plutôt autour du Soleil sur une orbite elliptique et non circulaire. En passant, il a fallu attendre 1200 ans pour que Kepler en vienne à la même conclusion.
Alors, j'imagine quand même qu'à cette époque-là, ça n'a pas été forcément apprécié comme théorie, en plus présentée par une femme.
Effectivement, Hypatie venait brasser les enseignements de la science et de la religion bien ancrés depuis des siècles. Quelle idée saugrenue qui venait d'une femme en plus. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés plusieurs hommes, chrétiens, semble-t-il. La qualifiant de sorcière, il l'aurait torturée physiquement, lapidée et assassinée sauvagement sur la place publique. Le film Agora d'Alejandro Amenábar, sorti en 2009, raconte de façon romancée l'histoire de cette femme mathématicienne et astronome. Je vous parle maintenant de Maria Mitchell. Maria a eu la chance d'avoir des parents qui lui ont offert une éducation semblable à celle des garçons, ce qui n'était pas vraiment courant pour l'époque. Cette Américaine, née en 1818, accède donc à des études supérieures en sciences et découvre l'astronomie avec son père, qui en est passionné. Sur le toit de la banque où elle travaille, elle installe un observatoire et scrute le ciel presque toutes les nuits. Le 1er octobre 1847, par l'objectif de son télescope, elle repère une comète jusqu'alors inconnue. À Rome, une ou deux journées après Maria, le père Devico observe aussi cette comète. À cette époque, le roi du Danemark avait promis une médaille d'or au premier observateur d'une comète télescopique, c'est-à-dire une comète qu'on ne peut repérer à l'œil nu. Après un an de querelle, c'est à Maria Mitchell que revient la découverte de la comète C-1847-T1, surnommée Miss Mitchell.
Yes!
Cette découverte lui donne accès à plusieurs institutions scientifiques américaines, dont l'American Academy of Arts and Science, où elle a d'ailleurs été la seule femme jusqu'à leur acceptation officielle en 1942. En 1865, elle devient la première enseignante titulaire et professeure d'astronomie du Vassar College dans l'État de New York, puis directrice de l'observatoire de l'université. Malgré son ancienneté et sa renommée, son salaire est plus bas que ceux des jeunes astronomes. Mmh. Elle insiste pour une augmentation à la hauteur de ses compétences, qu'elle aura finalement. Entre 1901 et 2014, 6 femmes et 360 hommes ont été récompensés par un prix Nobel. On compte 2 femmes en physique et 4 en chimie, alors qu'il y a eu 196 hommes en physique et 164 en chimie. Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule à en avoir 2 à son actif, en physique en 1903 et en chimie en 1911. Pour la petite histoire, et parce que c'est tout de même exceptionnel, la fille de Marie Curie et de son collègue et époux Pierre Curie, Irène Joliot-Curie, est l'une des 4 lauréates du Nobel en chimie en 1935.
Pourquoi une aussi grande disparité entre les hommes et les femmes dans ce cas-là?
Bien, pour gagner un prix, il faut être mis en nomination par les pairs. Et dans le passé, on espère que ça ait changé, les hommes n'avaient pas tendance à proposer leurs collègues féminines. Mm-hmm. Et ces dernières n'osaient pas se mettre en nomination. Et si certaines étaient très peu en nomination, ça faisait que le choix final pour le prix Nobel ne les considérait pas. Mm. Je voudrais aussi vous parler de Maria Goeper. Certaines femmes ont réussi à contourner les règles. C'est le cas de l'Allemande Maria Goeper, née en 1906. Intéressée à la physique dès son jeune âge, elle étudie au doctorat à l'Université de Göttingen. Quand elle démontre par la théorie l'effet sur une molécule de l'absorption simultanée de 2 photons. L'année suivante, elle épouse le chimiste américain Joseph Edward Mayer, qu'elle suit aux États-Unis. Parmi ses affectations, celle d'assistante bénévole à l'Université Columbia à New York lui permet de rencontrer plusieurs sommités en physique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle se joint au groupe des scientifiques œuvrant sur le projet Manhattan, ses recherches qui ont mené à la fabrication de la bombe atomique. Puis, ses recherches à l'Université de Chicago sur les couches du noyau atomique lui valent, en 1963, le seul autre prix Nobel de physique accordé à une femme.
Quand même.
Comme vous le voyez, la science, c'est un plaisir qui n'est pas réservé qu'aux gars. Avis aux jeunes filles. C'était l'article « La science au féminin » écrit par Ève Christian et qu'on peut trouver sur le blog de Radio-Canada. Ça a été produit le jeudi 12 mars.
Oui, j'en ai une que je trouve tout à fait d'actualité, puisque tout le monde a entendu parler de la nouvelle montre d'Apple. Et puis, bon, ils en ont parlé beaucoup partout. Ça provoque toujours des réactions passionnelles pour le prix, la présentation, etc. Mais ce qu'il y a quand même de très particulier, c'est qu'un site qui s'appelle Deridot met en cause plutôt la présentation des applis sur l'écran qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça représente une accumulation de petits ronds de taille variable. Mais ces images, elles sont très mal vécues par des gens qu'on appelle des tripophobes, qui l'ont fait savoir sur le réseau. Alors, qu'est-ce que c'est la tripophobie ? C'est une peur pathologique irrationnelle des objets criblés de trous de forme irrégulière. Parce que ces gens-là pensent qu'à l'intérieur de ces trous, quelque chose peut vivre et ils sont effrayés à l'idée de tomber à l'intérieur. C'est quand même c'est incroyable, hein, ça. Hein? Oui. Mmh. Marie, elle rit, mais ça ne doit pas être drôle. Hein? Donc, ces gens-là sont tombés dans les trous de sa montre. Hein? Alors, ce qu'ils précisent quand même, ce sont deux psychologues qui disent « Nous avons remarqué que chez les personnes non phobiques, les images tripophobiques, donc à trous, étaient tout de même moins agréables à regarder. »
Alors, l'alien des abîmes pêché en Australie, un requin lutin, une espèce rare de requin préhistorique surnommé l'alien des abîmes, a été capturé au large de l'Australie et sa dépouille remise à un musée. Vivant dans les grandes profondeurs, le requin lutin a un nez aplati, un corps rose, particulier,
rose
et flasque, ça c'est moins sympathique, et des dents en forme de clous. Il est considéré comme un fossile vivant datant de quelque 125 millions d'années.
Il ne gagnera pas un prix de beauté, en tout cas, celui-là.
Non,
hein?
Pas du tout.
Alors, dans quelques instants, on vous revient avec trois autres articles aussi différents les uns des autres. À bientôt.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, c'est une petite promenade avec Pitou. L'article s'appelle précisément « Conduire en toute sécurité » de Stéphanie Vallet, paru dans la presse du 16 mars. Bon, savez-vous que lors d'un freinage brutal à 50 km/h, le poids de Pitou à quatre pattes se voit multiplié par 20.
Par 20.
Ouh. Par 20, c'est incroyable, hein?
Oui.
Alors, imaginez, faites le calcul. Ça veut dire qu'un petit chien comme un caniche qui a 10 kilos à peu près devient, au moment d'un accident, un projectile vivant de 200 kilos. Ça veut dire que si vous recevez un projectile de 200 kilos, on peut, en quelques dixièmes de seconde, tuer le conducteur.
C'est mon poids, ça.
Non, pas 200 kilos.
200 kilos. 200 kilos.
Oh non,
excusez. C'est pas ton poids, quand même.
Quand même.
Je viens de maigrir tout d'un coup.
D'accord. Chanceuse, Marie. Donc, un petit coup d'œil sur les mesures de sécurité, c'est pas inutile, puisqu'on peut sauver la vie de Pitou et éviter les pires scénarios pour le passager ou le conducteur. Alors, bon, quand projeté contre le pare-brise lors d'un arrêt d'urgence ou d'un accident, l'animal peut subir un choc qui va lui infliger plusieurs blessures ou qui peut causer sa mort. Bon, à l'évidence, plus la vitesse est grande, plus c'est dangereux. Donc, lors d'un déplacement sur l'autoroute, évidemment, on recommande d'attacher le chien, ça devrait être même un réflexe. Pourtant, quand même, il y a un truc qui est étonnant, c'est que, selon le Code de la route québécois, garder son animal en liberté, c'est pas clairement considéré comme une infraction.
Donc, on est passible ou non d'avoir une contravention?
Ça m'étonne pas, la question d'un gars, tiens. Alors ça, c'est ça, la règle de 442 du Code de la sécurité routière du Québec qui stipule précisément... Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue d'un conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. Ça répond à votre question,
hein? Oui.
D'accord. Donc, les policiers pourraient ainsi vous donner une contravention s'ils jugent que votre compagnon est une source de danger. Donc, votre animal de compagnie ne devrait pas pouvoir se déplacer librement dans l'habitacle de votre voiture. Bon, il faut quand même reconnaître que ce ne sont pas des infractions qui sont parmi les plus fréquentes, nous dit un porte-parole de la Sûreté du Québec. Mais en France, par contre, il y a quand même une dame qui a reçu une contravention de 53 $ pour un tel délit. Hein. En France, la législation est beaucoup moins souple. Parce qu'une amende de 90 €, ça fait quand même à peu près 145 $, quelque chose comme ça. Mmh. Et jusqu'à 3 points d'inaptitude peuvent être imposés en cas de non-respect du règlement.
Et qu'est-ce qu'il y en a aux États-Unis?
Alors, chez nos voisins américains, un sondage réalisé en 2100 par une association automobile américaine explique que 30 000 accidents, aurait d'ailleurs été causé par des animaux en voiture. Parmi eux, 59% des conducteurs ont avoué avoir été distraits par une activité animale, c'est écrit entre guillemets. C'est drôle, oui. Dans l'article c'est écrit entre guillemets. Plus de 50% d'entre eux étaient en train de caresser leur animal lors de l'accident. 21% voyageaient avec leur chien sur leur genou. Moi, quand je vois ça dans une voiture, quand même, je trouve ça incroyable. Oui. Puis je trouve que définitivement, ça mérite quand même une contravention. Franchement, là, ça, c'est pas acceptable, il me semble. En cas d'accident, la SAAQ peut refuser de vous indemniser. Entre guillemets, c'est le texte que je vous lis. Aucune indemnité ne sera versée en cas de blessure ou de décès se produisant dans les situations suivantes. Des blessures causées par l'acte autonome d'un animal transporté dans l'automobile. Donc, évidemment, on redouble de précautions, n'est-ce oui. pas hein? Alors, les solutions, il y en a plusieurs et elles sont relativement simples. Votre pitou ne doit jamais voyager sans retenue sur le siège avant ou sur vos genoux. Le déploiement des coussins gonflables, pour eux, peut être mortel aussi, oui. puisque souvent, ils sont petits. Une utilisation très simple, le harnais pour chien qui se fixe sur la boucle de la ceinture de sécurité. Et il existe plusieurs modèles qu'on peut adapter en fonction de la morphologie de l'animal. Alors un petit conseil, c'est que n'attachez surtout pas le collier de votre chien à la ceinture de la banquette arrière, parce qu'en cas d'impact, évidemment, il pourrait se briser le cou. Mmh. Pour les gros chiens, ce qui est recommandé, le filet de sécurité ou la barrière, puisque ce sont les plus efficaces, qui séparent ainsi l'avant de l'arrière du véhicule de manière tout à fait sécuritaire. Un autre avantage supplémentaire, c'est que votre passager pitou ne viendra pas vous distraire pendant votre conduite. La cage de transport, elle est quant à elle offerte aussi en plusieurs tailles pour tout type de chien. C'est un bon choix, mais il faut bien sûr qu'elle soit fixée de façon stable, au plancher ou à la banquette avec une ceinture. Parce que sinon, évidemment, les risques de projection restent les mêmes ouais. que si le chien n'est pas attaché. Ça peut même être pire, et puisque ouais. la cage peut faire encore plus de dégâts. Et pour les chiens familiarisés avec son usage, la cage, c'est un endroit sécuritaire. Ils se sentiront à l'aise, mais juste faire attention à ce que la cage soit bien ventilée et surtout quand même qu'elle soit assez grande pour votre petit chien pour qu'il puisse se tenir debout. Donc, c'était un article extrait de la presse du 16 mars.
Maintenant, on parle d'arbres. Les arbres, des plus pour la santé, c'est un article d'Ève Christian publié dans la revue Nature sauvage du printemps 2015. Après la saison froide, la nature et l'humain sortent, enfin, diront certains, sortent de leur léthargie. Chacun reprend vie à sa façon. Vous avez remarqué comme s'épanouissent les arbres le printemps venu? Évidemment, pour le voir, il faut avoir la chance d'habiter dans un milieu vert. Oui, la chance, car la science prouve, hors de tout doute, que les arbres dans les milieux urbains apportent des avantages concrets en matière de santé de l'environnement et des humains qui y vivent. Indispensable gestionnaire de l'air et de l'eau, les arbres sont les champions de la dépollution atmosphérique. Les feuilles plates et larges de certains d'entre eux absorbent le carbone, l'ozone et le dioxyde d'azote, alors que la substance cireuse qui se trouve sur les cuticules des feuilles capture les particules fines, celles-là même qui causent les épisodes de smog. Et que dire de la production d'oxygène par la photosynthèse? 120 kilos par année sont produits en moyenne par chaque arbre mature. C'est important. Aussi, en interceptant et filtrant les précipitations, les arbres gèrent efficacement les risques d'inondation causés par les orages forts et violents qui se produiront plus fréquemment en raison des changements climatiques.
J'imagine, Marie, qu'il y a des liens entre les arbres et puis les facteurs de santé.
Énormément. D'abord, des études menées au Japon confirment que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et l'indice de stress sont abaissés chez les citadins habitant des quartiers urbains où la végétation abonde. Leur état de relaxation mentale et physique s'en voit amélioré. La verdure agit également comme un catalyseur dans le rétablissement des malades.
Ah, ça, c'est vrai.
C'est intéressant.
Oui.
La forêt urbaine fait face à l'infestation d'insectes exotiques, par contre. Pensons à la grille du frêne, arrivée en 1998 à Détroit, probablement dans des marchandises en provenance d'Asie, et qui a été ensuite pénétré au Canada par Windsor en Ontario, puis s'est rendu jusqu'au sud du Québec. Une étude états-unienne démontre que 3 ans suffisent à la grille pour anéantir tous les arbres d'une seule allée. Les effets négatifs ne touchent pas que l'esthétique du paysage. Dans 15 États où les frênes ont été attaqués, on a constaté des milliers de victimes supplémentaires. Annuellement, pas moins de 6 000 décès causés par une maladie pulmonaire et plus de 15 000 par une maladie cardiovasculaire.
Wow.
Stopper la progression de cet insecte est impossible, en tout cas jusqu'à maintenant.
Oui, jusqu'à maintenant.
Il faut donc traiter les arbres rapidement, sinon on devra les abattre, ce qui sera coûteux pour les municipalités, tout comme l'est la plantation d'un nouvel arbre qui peut atteindre 2 000 $. On se demande alors pourquoi on ne conserve pas ceux qui sont déjà présents lorsqu'on aménage un nouveau quartier. D'autant plus qu'en générant, générant des habitats phoniques, les arbres permettent la cohabitation entre les citadins, les oiseaux et quelques mammifères. Conifères et feuillus sont des obstacles naturels au bruit, au vent, au soleil et aux polluants. Plus belle qu'un mur de béton, une allée d'arbres ou une haie de cèdre, ce qui s'appelle le tuya occidental, atténue tout aussi bien les sons urbains, graffitis en moins. En plus, ça sent bon. De même, judicieusement planté, les arbres protègent du vent tout en ajoutant de la valeur aux propriétés. En été, les feuillus produisent de l'ombre alors qu'ils laissent passer le soleil en hiver, nous faisant économiser énergie et frais de chauffage.
Mais là, si on se met à perdre des arbres, c'est quoi le lien entre le manque d'arbres et puis les îlots de chaleur?
Alors, dans l'article, il y a une illustration, une figure qui est extraite du livre « Planète Cœur » du Dr. François Reeves à partir d'une photo qui a été prise par satellite. Et sur la photo, on voit bien que on est à Ville-Saint-Laurent. La photo a été prise. Les températures au sol ont été enregistrées à Ville-Saint-Laurent en juin 2005. Et on voit bien que dans le golfe, la température enregistrée était de 27,23 degrés Celsius. Dans le parc urbain, où il y a beaucoup d'arbres, évidemment, la température était de 23 degrés Celsius, 23,16. Et dans le quartier résidentiel, la température était de 31,54.
Wow. Aïe.
C'est énorme, rien, hein? Énorme comme différence. Alors, davantage de chaleur signifie une augmentation de la toxicité des polluants, ce qui contribue à accroître le développement de certaines maladies, infarctus aigus, AVC, mort subite, calcification artérielle. Dans une ville bien pourvue en milieu vert, le taux de décès lié aux maladies cardiovasculaires diminue de 25 à 75 %. Alors, c'était un article de Eve Christian, publié dans la revue Nature sauvage du printemps 2015.
Les bottes usées par la poussière, à trop marcher sur les cailloux. Jour après jour, je laisse derrière une ombre qui tombe à genoux. J'ai accroché à ma ceinture un vieux couteau, un peu d'argent, de quoi survivre à l'aventure et continuer plus loin qu'avant. Je me laisse aller. La route mène à l'oublier, où la route mène. Je me laisse aller, où la route mène à l'oublier, où la route mène. Passe dans des villages déserts, l'air est si chaud que tout se taire. Des rivières sales courent vers la mer, des hyènes détalent vers leur tanière. Le jaune est roux dans les canyons, ma soeur se noue avec la terre. Dans les cabanes qui se façonnent, les enfants jouent à faire la guerre. Je me laisse aller. Aller où la route mène, à l'oublier où la route mène.
Alors, merci Jean-Sébastien. C'est Daniel Lavoie qui nous chantait « Où la route mène ?» Et moi, je vous lis « Un an à bourlinguer en famille ». Article de Catherine Schläger dans la presse du 14 mars. je vous présente Vincent Boisvert et Véronique Duguay, qui voyagent depuis une vingtaine d'années. Les deux avaient toujours exprimé le souhait de prendre un congé sabbatique pour entreprendre un périple d'un an. Ça, c'est pas particulier. Cependant, une aventure qu'ils souhaitaient bien vivre en famille avec leurs deux enfants, Camille et Alexandre, âgés à l'époque de 7 et 10 ans. Le rêve est vite devenu réalité de juin 2013 à juin 2014 pendant exactement 365 jours. Une année complète, remplie de hauts, parfois de bas, de découvertes, de moments cocasses, d'apprentissages, de rencontres déterminantes, mais surtout d'inoubliables moments passés en famille. Lors de cette année, les deux jeunes explorateurs qui possédaient une certaine expérience des voyages ont visité pas moins de 17 pays. Ils ont atterri à Paris, y ont passé quelques jours parce que le jeune Alexandre rêvait de voir la Tour Eiffel, puis se sont dirigés d'abord vers l'Afrique du Sud, ont suivi la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe pour les chutes, le Malawi, la Tanzanie, Oman, les Émirats arabes unis, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam et la Chine.
Ouf!
Attendez, là, moi je suis un petit peu pratico-pratique, là. Où est-ce qu'on dort, là, quand on voyage comme ça dans tous ces pays avec des enfants?
Alexandre et Camille adorent manifestement camper. Lorsqu'on les questionne sur les pays qu'ils ont préférés, c'est tout naturellement qu'ils pointent des destinations où ils ont pu camper. Mes pays préférés? La Namibie et Oman, parce que c'est les seuls pays où on a fait du camping, clame Camille. Oman a visiblement marqué la jeune fille. Outre le camping, elle a adoré visiter le souk et aller à la ronde. Mais plutôt une fois avec quelques manèges, précise sa maman. Moi aussi, la Namibie, déclare à son tour Alexandre, parce qu'on a fait du camping, qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'on a fait notre premier safari. Et aussi le Népal, parce que c'était ma fête et parce que j'aime beaucoup les montagnes. Et il faisait un peu plus frais qu'ailleurs. Pour se loger, la sympathique petite famille a la plupart du temps dormi dans des auberges, des petits hôtels et des pensions familiales chez l'habitant. Pour le côté économique, mais aussi pour faire connaissance avec la population locale, ce qui permet parfois de vivre de surprenantes expériences.
Souvent.
Au Sri Lanka, tu te souviens, le monsieur Sou, s'amuse Camille. Sa mère explique que lors de leur séjour dans une auberge, l'habitant, constamment en état d'ébriété, tapait gentiment sur la tête des enfants en répétant bizarrement « Abou, Abou ». Ça permet de discuter de plusieurs thèmes que l'on ne rencontre pas nécessairement ici. On n'a pas le choix d'aborder les différences, la pauvreté, la violence, l'alcoolisme, concède Vincent, qui tient le site Voyage en famille à l'adresse voyageenfamille.com. Des anecdotes, il y en a évidemment des dizaines à raconter lors de ces 365 jours passés à l'étranger, notamment dans une piscine trop bondée du Vietnam. On était dans une piscine à vagues où il n'y avait aucune vague, même avec le moteur à vagues. Il y avait beaucoup trop de monde, se rappelle Alexandre. Papa et moi, on était au milieu de la piscine et maman et Alexandre nous cherchaient. Papa m'a soulevé pour qu'il réussisse à nous voir, en chérie Camille, pour illustrer à quel point cette piscine était surpeuplée.
Mais partir avec des enfants d'âge scolaire, ça implique des arrangements spéciaux, non?
Je reconnais l'enseignante en toi, Marie.
Oui, tout à fait.
Lors du départ en juin 2013, Camille et Alexandre s'apprêtaient respectivement à entrer en deuxième et quatrième année du primaire. Des années parfaites pour un enseignement familial en voyage, juge la maman, qui avait déposé un projet d'enseignement à domicile à sa commission scolaire. Pendant 5 mois, à raison d'environ 6 heures par semaine, les parents ont couvert les principales matières scolaires, français, mathématiques et anglais, appris sur la route. Même si la motivation n'était pas toujours au rendez-vous, diverses situations concrètes ont servi de contexte aux apprentissages. Alexandre voulait participer davantage. On lui a donné la tâche de trésorier pendant 1 mois. C'était lui qui avait les sous et payait tout. Il calculait le pourboire et s'assurait que la somme était correcte. Mmh. Il faisait ses maths et il a pu comprendre toute la valeur de l'argent, nous dit sa mère.
Alors, le voyage forme la jeunesse, c'est ça le...
Forme la jeunesse, ouais. Et on perd pas sur les travaux d'école. Pour Camille et Alexandre, le voyage est devenu un véritable mode de vie. C'est tout naturellement qu'ils rêvent au prochain départ. Gourmande, Camille aimerait visiter l'Italie, à cause de la crème glacée.
Bien sûr.
Tandis qu'Alexandre préférait le Pérou, le Népal ou le Tibet pour les montagnes et parce qu'il y fait froid. Mm. Le prochain embarquement prendra un certain temps. La famille doit d'abord amasser quelques économies, finir de classer ses souvenirs et s'en remettre émotionnellement. Les enfants qui ont acquis une plus grande maturité ont beaucoup changé. On a atterri il y a juste 8 mois et on n'est pas encore totalement revenu. Il paraît que ça prend 1 an pour revenir d'un long voyage comme ça. C'est plus facile de tirer sur une plante pour enlever les racines que de faire en sorte qu'elle s'enracine à nouveau, conclut la maman. C'était l'article « Un an à bourlinguer en famille » écrit par Catherine Schläger dans la presse du 14 mars.
Écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est un bébé miracle. C'est un bébé qui est né en septembre et qui fait le bonheur de ses parents. Pourquoi ? Parce que Vincent, c'est le premier bébé au monde à avoir vu le jour grâce à une greffe d'utérus. Et l'histoire de sa naissance a fait l'objet d'ailleurs d'une publication dans quand même le très sérieux Lancet par l'équipe du chirurgien d'un hôpital universitaire de Göteborg en Suède. Le médecin, il a réalisé 9 greffes utérines en 2013 avec l'unique but de permettre à des femmes qui sont nées sans utérus de vivre une grossesse. Bon, il faut quand même savoir que cela étant, la procédure est encore expérimentale, elle est risquée aussi bien pour la receveuse, la donneuse et peut-être aussi pour l'enfant. Bon, le petit Vincent est heureusement en bonne santé, mais il est quand même né près de 2 mois avant terme, en raison d'une complication de la grossesse, c'était une pré-éclampsie qu'on voit dans des grossesses normales d'ailleurs. Mais on ignore dans le cas présent si le problème était lié à la greffe ou non. Bon, le chirurgien, il a quand même gagné son pari, puisque plusieurs de ses sujets, dit-on, sont actuellement enceintes, après quand même des procédures de fécondation in vitro. Alors voilà de quoi donner de l'espoir aux femmes atteintes de malformations utérines ou ayant subi une ablation de l'utérus.
Oh là là, oui.
C'est quelque chose, hein? Pas tant que ça.
Alors moi, je vous parle d'une île où les chats sont 6 fois plus nombreux que les humains. Les chats sauvages sont rois dans l'île japonaise d'Aoshima, dans le sud de l'archipel, prenant leurs aises dans les maisons abandonnées et se pavanant dans ce village de pêcheurs où les félins sont 6 fois plus nombreux que les humains. Les premiers représentants de l'espèce ont été amenés sur l'île par des pêcheurs dont les bateaux étaient infestés de souris. Depuis, les chats sont restés et on en recense désormais plus de 120. L'exode rural post-Seconde Guerre mondiale a en revanche vidé la commune, désormais seulement habitée par une poignée de retraités. La suprématie des quadrupèdes est seulement contrecarrée par les touristes qui viennent passer la journée sur l'île aux chats, comme on la surnomme dans la région, en dépit de l'absence de restaurants ou de boutiques. Face à l'invasion des chats et des touristes, les habitants de l'île restent philosophes, tant que leur tranquillité n'est pas menacée.
Alors là, c'est un suspense que je vous propose, un coma suspense.
Okay.
Les patients dans un état végétatif peuvent-ils ressentir des émotions? Le débat est ouvert depuis que des scientifiques ont demandé à une douzaine de volontaires de regarder un épisode de la série Alfred Hitchcock présente, pendant qu'un appareil d'imagerie mesurait l'activité de leur cerveau. Un homme, dans un état végétatif depuis 16 ans, a été soumis à la même expérience. Savez-vous le résultat?
On a hâte.
L'activité cérébrale enregistrée chez lui était semblable à celle des personnes saines, après 16 ans
d'état végétatif.
Quand même assez incroyable. Hein? C'est un peu inquiétant hein, quand même, parce qu'on se pose des questions hein, dans ce cas-là. Hein?
Mm-hmm. « Alors, c'était l'émission du 17 mars de Kiosque Magazine. J'ai participé à cette émission avec toute notre équipe. Alors, merci à Marie.
Merci.
Merci.
Merci à André.
À la semaine prochaine.
Merci, Michel.
Pour mon silence. J'espère être des vôtres la semaine prochaine avec la voix cette fois-là.
On espère ça beaucoup. Oui. Et merci à Jean-Sébastien qui, comme toujours, nous a guidés à travers cette émission. Je vous envoie vers le site canalm.org pour avoir accès constamment à toutes les émissions. Le site a été revampé dernièrement et c'est très facile. On aimerait avoir vos commentaires. Vous écrivez à canalm@commercialvuesetvoix.com. L'émission actuelle est en reprise à 13h et à 21h et on vous revient la semaine prochaine avec, on l'espère, Michel et Marie et André, avec encore des sujets aussi variés et aussi divertissants. À la prochaine.